le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue à ce numéro du magazine des Nations Unies. Voici les titres. Situation humanitaire en RDC, le HCR plaide pour une collaboration avancée entre toutes les parties prenantes, cela afin de répondre aux besoins des déplacements forcés dans le pays. Un appel lancé lundi dernier à Kinshasa par sa représentante devant le corps diplomatique accrédité en RDC. Les leaders communautaires de Bogoro, Katonie, Komanda, Nitouri sont sensibilisés par la section genre de la MONUSCO. L'activité a porté sur l'égalité de sexe et les violences basées sur le genre. Pour en parler, nous recevons Noëlla Tabio, c'est l'une des oratrices à cet atelier. Barthélémy Bato, coordonnateur du programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour la zone Est, est l'invité de cette édition du magazine des Nations Unies. Voilà pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Cette page d'actualité commence à Beni. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, chargée des opérations et de la protection en RDC, Viviane Van de Perre, a séjourné à Beni au Nord Kivu lundi 11 et mardi 12 novembre. Elle a eu des échanges avec les responsables des FARDC dans la zone, les autorités locales ainsi que des représentants de la société civile. Il s'agissait de renforcer la collaboration avec ces différents acteurs en vue d'améliorer la protection des civils dans cette région confrontée à des défis sécuritaires. Guylaine Kassassia revient sur cette visite.
Aussitôt arrivée à Beni, Viviane Van de Perre s'est rendue au quartier général du secteur opérationnel Sokola, un grand nord des FARDC à Païda, où elle a rencontré le commandant des opérations. Les échanges ont porté sur la coordination des opérations militaires en vue d'intensifier la lutte contre les rebelles des ADF, comme elle l'explique.
Nous sommes ici pour mieux soutenir la FARDC dans notre lutte conjointe contre le ADF. Nous sommes là pour la coordination qui va nous amener à un meilleur résultat parce que nous sommes là, comme toujours, en soutien de la FARDC.
Viviane Van de Perre est allée ensuite s'entretenir avec le maire de Beni, Jacob Nyofondo Tekodal. Ce dernier a salué la collaboration entre la MONUSCO et les autorités locales pour la sécurité des civils, notamment à travers un soutien logistique et diverses formations dispensées aux policiers et militaires de Beni.
La collaboration avec la MONUSCO va bon train. D'ici là, nous allons faire patrouille mixte avec la MONUSCO, rien que pour sécuriser la ville.
Viviane Van de Perre prévoit également de rencontrer les acteurs de la société civile ce mardi pour poursuivre ses échanges sur la question de sécurité et de protection des populations. Beni Guylaine Kassassia, Radio Kapi.
En Ituri, environ 700 cultivateurs ont déjà regagné leur village d'origine depuis une année. Ils vaquent librement à leurs activités dans la chefferie de Waleste Vonkutu. Nous sommes au sud d'Irumu. C'est le résultat de l'accord des pays de cohabitation pacifique signé en 2023 entre les communautés locales jadis en conflit grâce à l'appui de la MONUSCO. C'est un constat fait lundi dernier au cours d'un atelier d'évaluation de cet accord, travaux qui ont réuni des chefs coutumiers ainsi que de notables des communautés Nande et Lesse à Komanda. Compte rendu, Ezekiel nous a
Les communautés Lesse et Nande au sud du territoire d'Irumu ont résolu d'enterrer les différends qui les opposent, notamment autour de la gestion des terres, surtout dans les groupements Bokutu et Bandiangu dans la chefferie de Waleste Vonkutu. Des divergences qui avaient dégénéré en violence avec comme conséquence des pertes en vies humaines, l'incendie des maisons et les déplacements des populations. Selon le président de la société civile locale, les deux communautés vivent désormais ensemble en harmonie. Dieudonné Malangaï.
On vient de déatifier 1024 cultivateurs. Nous venons de faire rentrer 708 cultivateurs dans leur champ et aujourd'hui ils sont sur terrain et sont en train de cultiver. Il y avait la division auparavant, mais pour le moment la cohabitation est renforcée.
L'administrateur du territoire d'Irumu salue cette prise de conscience qui augure d'une paix durable dans la région. Le colonel Siro Simba invite les deux communautés à préserver les acquis de cette paix.
La chefferie de Waleste Vokutu, pour moi c'est la chefferie martyr. Avant, les laissés de cette des communautés à couteau tiré. Maintenant, elles sont ensemble. Ça donne notre force.
Plus de 70 villages jadis vidés de leurs habitants sont de nouveau habités grâce au dialogue communautaire et aux opérations conjointes contre les rebelles des ADF dans la région. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Situation humanitaire en République démocratique du Congo, le Haut Commissariat pour les réfugiés, HCR, plaide pour une collaboration avancée entre toutes les parties prenantes, cela dans le but de pouvoir répondre aux besoins des déplacements forcés en RDC. L'appel a été lancé lundi dernier à Kinshasa au cours d'un briefing trimestriel organisé à l'intention du corps diplomatique accrédité en RDC. Angèle de Kikongwe Atangana, représentante du HCR en RDC, a à cet effet exposé les dernières actualités de cette agence tunisienne. Elle attire notamment l'attention de tous sur la situation particulière que traverse le pays. Elle est au micro de Jeff Opela.
J'ai terminé mon dialogue avec les bailleurs de fonds tantôt en leur disant que la crise en RDC, malgré le fait qu'elle a trop duré, reste quand même très invisible. Pour le HCR, cela fait plus de 10 ans que la RDC fait partie des 10 opérations les moins financées pour notre maison. Et je sais que c'est valable pour d'autres agences sœurs du système des Nations Unies. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est que aussi cette pérennisation-là de la crise n'est pas faite pour aider qui que ce soit les personnes qui souffrent pour qui cela devient vraiment invivable, ou que ce soit ceux-là comme nous venons à leur secours. Donc, par rapport à tout cela, la porte de sortie pour nous tous, c'est la paix durable pour l'Est du Congo, pour le Congo, pour que cela soit salutaire pour ce pays.
Les soldats de FARDC issus de l'unité commando ont clôturé lundi 11 novembre une formation de 4 semaines au centre de formation militaire de Rwampara dans la périphérie de la ville de Bounia. Il s'agit d'une nouvelle équipe formée par les casques bleus de la MONUSCO. L'objectif est de renforcer les capacités opérationnelles de FARDC dans leur lutte contre les groupes armés locaux et étrangers en Ituri. Reportage Sadiq Aboubakar.
Ils sont au total 400 soldats en uniforme, enfilant des t-shirts de couleur verte et portant des insignes de l'unité commando des FARDC à l'extrémité gauche de la poitrine. Sur leur visage, on peut lire l'enthousiasme et la joie de finir cette formation. Dans la partie théorique, ils ont appris la géographie de l'Ituri, le maniement d'armes, les tactiques de tir et de combat. Ils ont également appris comment tendre des embuscades à l'ennemi et la communication radio. Ils ont été aussi outillés sur les notions des droits humains, la protection de l'enfant et des personnes déplacées. En plus de la démonstration sur le maniement d'armes, ces commandos ont également démontré des exercices d'endurance physique et les combats corps à corps. Le gouverneur de l'Ituri, le général Johnny Luboya Nkashama, exprime sa satisfaction.
Je suis l'homme le plus heureux. Il y a 2 semaines, vous avez vu que nous avions formé, n'est-ce pas, les forces spéciales. Aujourd'hui, ce sont les forces de couverture à qui on a appris d'abord les techniques de combat et tout. Et aussi les règles de comportement parce qu'ils vont évoluer là où il y a des déplacés, là où il y a des réfugiés.
Rappelons que les instructeurs étaient venus des différents contingents des casques bleus, mais aussi des FARDC. Bounia. Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Nous bouclons cette page d'actualité au Nord Kivu. Le programme alimentaire mondial PAM a apporté une assistance alimentaire le week-end dernier à plus de 23 000 ménages de déplacés de guerre et aux familles d'accueil dans les localités de Moussienene et Boutembo. Selon Claude Kalinga, chargé de communication du PAM, cette aide comprend des légumineuses, des céréales, de l'huile végétale et du sel iodé.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le magazine des Nations Unies reçoit dans ce premier entretien Noëlla Tabio de la section genre de la MONUSCO. Cette section sensibilise des leaders communautaires, notamment à Bogoro, Katoni et Komanda, sur l'égalité du sexe entre les hommes et les femmes, ainsi que sur les diverses formes de violence basées sur le genre. L'objectif est de promouvoir la masculinité positive en vue d'améliorer le statut de la femme et sa représentation dans les structures communautaires de l'Ituri. Pour en parler, Maguyane reçoit Noëlla Tabio, l'une des oratrices de cet atelier. Et s'entretient avec Jean-Claude Lokidile.
Noëlla Tabio, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Qu'est-ce qui justifie l'opportunité d'intersensibilisation, surtout avec ces gens qui vivent dans la communauté? Est-ce que vous estimez, parce que cela, le problème est encore très sérieux, avec les poids de la coutume, où ces messages passent difficilement et pour lesquels il faut cibler ces gens qui viennent des milieux ruraux pour que le message atteigne justement, sur, si on peut dire, ceux qui sont encore les conservateurs ou bien les extrémistes?
Cet atelier ne vise pas seulement des leaders communautaires ou bien les leaders de ces milieux ruraux, mais c'est aussi plus important même pour des autres leaders. Surtout, l'important, c'est d'aller ça, c'est promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme. Parce qu'avec les plafonds de verre, les murs de verre qui bloquent les leaderships féminins, qui bloquent les femmes, qui les maintiennent dans une situation inférieure aux hommes, cet atelier va leur permettre alors de se dévoiler les visages, de se laisser aller, de prendre aussi des positions et d'essayer aussi de laisser ouvrir leur potentiel. Alors si on a sélectionné les milliers ici qui est reculé, c'est pas seulement à cause des coutumes. Oui, je dirais oui, il y a aussi des coutumes qui pèsent sur eux. Il y a des normes culturelles qui sont encore là et qui concernent encore très bien. C'est aussi pour les enfranchir, pas même les enfranchir, mais leur permettre de jouir de leur liberté, d'essayer de s'épanouir, de laisser voir aussi leur potentiel, de les mettre aussi à la disposition de la communauté et même du pays pour que nous puissions atteindre un bon développement. Et même pour les autres femmes qui ne sont pas de ces milliers, c'est un message vraiment très important pour nous laisser tous, toutes les femmes qui nous sommes, nous ouvrir, nous donner aussi à l'opportunité, accéder aussi à des positions, des décisions, à des ressources qui sont disponibles pour nous et de s'épanouir pleinement.
Comment tu fais dans la présence des hommes? Parce qu'on sait que quand on parle de violences sexuelles basées sur les genres, quand on parle de stéréotypes sexistes, quand on parle du genre, généralement on pense que ça concerne les femmes. Est-ce que vous pensez que s'il y a frein, s'il y a handicap, s'il y a blocage, c'est notamment aussi les hommes qui freinent ça?
Pour la présence des hommes, c'est juste aussi pour les sensibiliser et permettre aux femmes d'accéder, leur montrer que les femmes aussi peuvent faire, les femmes aussi sont importantes, les femmes aussi ont des mots à dire, elles ont des expériences, elles ont des connaissances, que les hommes ne prennent pas si les leaderships ou bien les histoires des genres comme c'est pour les femmes et les leaderships c'est pour les hommes. Non, on a tous des potentiels vu que Dieu nous a créés égaux. On a tous des potentiels qu'on doit mettre à la disposition de la société pour que nous puissions vivre vraiment un épanouissement et le développement. Alors la présence des hommes est justifiée par le fait que les hommes aussi doivent encourager les femmes, doivent comprendre que les femmes vont aussi à quelque chose et peuvent faire aussi quelque chose et leur laisser aussi accès, pas seulement réservé aux hommes, mais aussi prendre aussi les opinions des femmes, prendre aussi les connaissances des femmes en considération comme étant qu'un être humain libre des droits.
Là, l'un des participants a souhaité que ces gens de sensibilisation soient aussi menés dans des fins fonds, là où c'est encore très prononcé. Il y a encore un besoin. C'est vrai, vous avez fait à Bougoro, c'est presque un centre de négoce, mais aller vers les fins fonds, là où il y a les conservateurs, comme je l'ai dit, c'est pas qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, parce qu'ils disent que là il y a encore le besoin où effectivement la femme n'a pas droit à la parole, la femme n'a pas droit au siège, la femme elle c'est la cuisine, c'est les chances. Comment vous réagissez par rapport à cette réflexion d'un des participants qui est dans la salle,
hein? C'est pourquoi on a ciblé les leaders communautaires, parce qu'on sait qu'un leader est celui qui a toute une communauté à sa possession. Peut-être peut arriver que c'est un leader de ces milliers-là dans les fins fonds, alors à les former ici, c'est pour qu'ils partent aussi former les gens qui se retrouvent dans les fins fonds. À les sensibiliser ici, c'est pour qu'ils partent aussi sensibiliser les autres qui n'ont pas eu la chance de participer, qui ne sont pas avec nous ici, afin qu'ils apprennent, qu'ils retiennent quelque chose. C'est pourquoi on a ciblé les leaders, parce qu'ils ont des communautés, des groupes qui sont à leur disposition, qui doivent aussi sensibiliser et ainsi de suite, que ça va continuer. Et aussi, pour ce qui concerne la sensibilisation de ceux qui conservent encore les normes quotidiennes, qui conservent encore la culture. Alors, c'est pour cela, les leaders doivent aussi comprendre que les changements ne peuvent pas venir du coup, mais c'est un processus qui va venir au fur et à mesure, avec des sensibilisations pareilles qui est aujourd'hui avec les leaders, que les leaders aussi doivent aussi sensibiliser à leur tour. Et je pense que ça fera une chaîne qui va se suivre. Et petit à petit, nous allons arriver à un changement.
Néla Tabio, merci.
Merci beaucoup.
La présence des forces de la MONUSCO dans les zones sous contrôle du M23 est très importante pour le suivi du processus de cessez-le-feu et de son mécanisme de vérification. C'est ce qu'a dit mardi dernier à Beni la chef adjointe de la MONUSCO chargée des opérations et de la protection en RDC dans un point de presse au terme de sa visite de 2 jours dans la région. Selon Viviane Van de Perret, cette présence permet aussi de faire le suivi des négociations entre les belligérants et le gouvernement congolais. La première ministre Judith Suminwa appelle à une action collective face à l'urgence climatique. Elle souligne que la Terre fait face à une urgence climatique sans précédent, ce qui nécessite une action collective qui repose sur des principes de justice, d'équité et de solidarité. Judith Suminwa Touluka s'est ainsi exprimée mercredi à la 29e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP29. L'événement se tient à Bakou, capitale d'Azerbaïdjan.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies reçoit comme invité Barthélémy Bato, coordonnateur du PNUD pour la zone Est dans le cadre du programme intégré d'appui à la décentralisation, à gouvernance locale et planification de développement. Il nous parle de ses travaux d'actualisation du plan provincial de développement du Maniema pour l'exercice 2024-2028 qui venait de se clôturer à Kindu. Travaux ayant connu l'appui technique et financier du PNUD. Barthélémy Bato, notre invité, répond aux questions de Florence Kizalunga.
Monsieur Barthélémy Bato, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi PNUD décide d'accompagner la province du Maniema dans l'actualisation de son plan de développement 2024-2028?
Oui, tout d'abord, ce qu'il faut signaler est que le PNUD est le partenaire du gouvernement en matière de développement. Le PNUD a reçu la demande officielle de son Excellence Monsieur le gouverneur de la province qui a souhaité avoir un accompagnement pour l'actualisation de son plan de développement provincial 2024-2028. Pourquoi? Parce que, pour rappel, le PNUD avait également accompagné la province du Maniema dans l'élaboration du plan de développement provincial 2019-2023. Et donc, c'était logique que le gouverneur de province recourt encore à l'expertise du PNUD pour l'aider techniquement et financièrement pour le processus d'actualisation de ce plan de développement provincial 2024-2028.
Pourquoi est-il important d'actualiser un plan de développement?
Oui, un plan de développement provincial, c'est un outil à la fois de plaidoyer, mais également un outil de gouvernance. Aussitôt qu'il a pris fonction pour une période de 5 ans, le gouvernement provincial devait avoir un document stratégique qui reprend tous les besoins prioritaires de sa population. Pour rappel, le plan de développement provincial est élaboré de manière participative et donc le gouverneur de province avait souhaité avoir cet outil qui pourra l'aider avoir tous les besoins prioritaires exprimés par la population. Et donc, ça sera un outil de gouvernance, ce document stratégique qui prend en compte toutes les orientations stratégiques et sa politique en matière de développement pour les 5 prochaines années.
Dans le cas d'espèce, qu'est-ce qui a été enlevé ou bien corrigé ou bien ajouté à ce que vous avez fait?
Pas que l'ancien plan a vieilli. La planification en soi, elle est cyclique parce qu'on élabore un plan pour une période de 5 ans. 5 ans après, il faut se mettre encore en cause et re-questionner les priorités qui sont contenues dans les plans parce que 5 ans après, certainement qu'il y a certaines actions qui ont été réalisées, il y a d'autres actions qui sont en cours et il y a de nouveaux besoins qui se sont créés. Et donc, c'est tout cela et le travail qui a été fait par les experts, les parties prenantes pendant les 3 semaines d'activité. Et il a fallu donc essayer de questionner pilier par pilier toutes les priorités qui étaient considérées. Il y a de cela 5 cas, est-ce que ces priorités sont encore d'actualité ou pas? Et donc, c'est ce travail-là d'actualisation qui a été fait. Et ça a fait aujourd'hui que, certainement, comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup d'éléments nouveaux qui sont venus.
C'est notamment?
Oui, notamment, il y a par exemple dans les secteurs d'infrastructure, il y a beaucoup de routes aujourd'hui qui ont été identifiées, qu'il faut encore réhabiliter, qu'il faut aujourd'hui reconstruire. Et beaucoup d'autres priorités, quoi. Donc, dans tous les secteurs, pratiquement, il y a certaines activités qui ont été réalisées et d'autres qu'il fallait actualiser. Et pour rappel, le gouvernement provincial, avant même cet exercice, il avait conduit un atelier d'évaluation du plan de développement provincial 2019-2023. Cette évaluation a montré que beaucoup de priorités d'action qui étaient dans ce plan-là n'ont pas été réalisées à hauteur de moins de 20%. Voilà que ça valait la peine qu'il y ait une actualisation. Et c'est ce que les parties prenantes ont fait pendant les 3 semaines d'activité.
En ce qui concerne le budget, est-ce qu'on peut avoir une idée pour ces nouveaux plans?
Ah oui, la budgétisation, là aussi, il y a y a une évolution parce que l'ancien plan qui était évalué était peut-être trop ambitieux, parce que le PAPA, soit le plan d'action prioritaire, était évalué à peu près 900 millions de dollars. Maintenant là, je viens de voir ce qui est fait. La budgétisation paraît réaliste parce que le plan d'action prioritaire pour les 5 ans est budgétisé à hauteur de 200 millions de dollars. Donc c'est presque l'un quart du montant qui était dans l'ancien PAPA. Et je trouve que quand même c'est réaliste compte tenu des réalités, des niveaux peut-être de mobilisation de ressources actuelles au niveau provincial.
Aujourd'hui, ce n'est que la validation technique. Il y a encore d'autres processus qui vont suivre. Est-ce que PNID sera-t-il aux côtés du gouvernement provincial pour continuer à appuyer ces travaux?
Cela ne sera pas la fin. C'est juste un début. Parce que c'est bien d'élaborer un plan, mais le reste du travail reste la mise en œuvre de ce plan de développement provincial. Et le PNID, en tant que partenaire du gouvernement provincial, sera toujours aux côtés du gouvernement provincial de Maniema pour l'accompagner dans des processus de la mise en œuvre, du suivi de l'exécution de ce plan de développement provincial.
Monsieur Barthélémy Bato, je vous remercie.
Je vous en prie, madame.
Vers Kalimi, dans la province du Tanganyika, les travaux du PDL 145 territoires évoluent normalement à propos du représentant résident du PNUD en RDC. Il a dit mardi à Kalimi au cours d'une conférence de presse qu'il a animée conjointement avec le vice-premier ministre du plan. Les deux intervenants ont fait un état des lieux du PDL 145 territoires dans le Tanganyika. Au micro de Paula Munanga, Damien Mama, représentant résident du PNUD, note tout de même quelques difficultés liées au mauvais état des routes.
Dans toute la province, on a déjà 5 écoles qui sont utilisées par les enfants et nous avons 24 autres infrastructures qui sont en finition et le bâtiment administratif de Kabimba, les deux écoles ainsi que le centre de santé de Mitoa font partie. Donc il y a du travail qui est en train d'être fait. Dans la province du Tanganyika, nous avions prévu 91 infrastructures totales et à ce jour, il y a encore 14 pour lesquelles on n'avait pas encore signé les contrats à cause des questions de décaissement qui viennent d'être réglées. Donc en fait, on doit pouvoir signer les contrats pour les 14 pour que dans toutes les localités où c'est prévu, on puisse avoir effectivement les travaux démarrés et finis. Pour ce qui concerne les territoires de Manono, Kongolo et Kabalo en particulier, les travaux sont en cours, mais pas au même rythme que les autres territoires. Et cela s'explique, vous savez, plus les territoires ont des problèmes d'accessibilité, plus les travaux sont lents. Vous savez, par exemple, que Manono a été coupé de l'ensemble de la province pendant au moins 5 mois, récemment. On ne pouvait pas y aller.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Et dans vos agendas, ces 3 dates à retenir pour la semaine qui commence. Le 18 novembre, la journée mondiale du jeu vidéo. Le 19 novembre, 2 événements, c'est la journée internationale de l'homme. En même temps, la journée mondiale de la prévention des abus envers les enfants. Enfin, le 20 novembre, intervient la journée internationale de droit de l'enfant. Cette émission que vous pouvez réécouter sur www.radiocapi.net. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également à Jean-Noël Mokondo qui a assuré la coordination technique. Au micro, Babel Pongo, au Massimango. C'est avec un grand plaisir que je vous ai présenté cette émission produite, coordonnée et réalisée par Jeff Opela. Merci de rester à l'écoute de la fréquence de la paix. Quant à l'équipe du magazine des Nations Unies, eh bien, elle vous fixe un nouveau rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.